aperçoit lui-même est une forteresse inexpugnable.
À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.
Écoutez.
Avec la même grâce.
Vous êtes sur France Culture.
La radio.
France Culture.
Le feu teinte dans les cloches.
Vous écoutez.
Et la parole.
France Culture.
La radio.
La clé des nuits légères enchaînées au cœur des...
Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture.
Vivez avec France Culture. L'éloge du savoir. Éloge du savoir avec aujourd'hui Marie-Anne Vanier. Les 13, 14, 15 et 16 septembre 2005 s'est tenu au château de la Hulpe le 5e colloque de Bruxelles. Cette rencontre annuelle organisée par France Culture et l'Université libre de Bruxelles avait cette année pour thème « Questions d'origine ». C'est l'enregistrement de ces interventions ainsi que les débats qui ont suivi, placés sous la direction culturelle de Michel Cazenave, que nous écoutons chaque matin. Les disciplines les plus diverses sont ici convoquées dans la multiplicité de leurs approches, sciences, psychanalyse, philosophie, religion. Marie-Anne Vanier est professeure de théologie à la faculté de théologie de l'Université de Strasbourg. Elle anime l'équipe de recherche sur les mystiques rhénans. Grande spécialiste des Pères de l'Église, elle dirige plusieurs revues, dont la revue « Connaissance des Pères de l'Église ». Elle nous parle ici des récits d'origine dans le christianisme ancien. Son intervention s'intitule « Origine et création chez les Pères de l'Église ».
Grande question de l'être humain. Cette question n'a cessé de retenir l'attention de tous depuis le début de l'humanité, et les pères qui ont été des pionniers et qui ont réalisé la transition entre le temps des apôtres et celui de l'Église ont dû y répondre à la demande de leur communauté. Ils disposaient d'un texte, celui de la Genèse, qui rend compte des origines à partir d'un récit mythique. Ce récit, ils l'ont commenté dans le cadre de leur catéchèse baptismale, principalement en ayant recours aux ressources de l'exégèse allégorique et de l'exégèse littérale, ainsi qu'à la culture de leur temps. Philosophes et théologiens, les pères se sont attachés à rendre compte de l'origine et ils ont développé à partir de là leur théologie de la création qui concerne aussi bien l'univers que l'être humain. Or, quelle différence y a-t-il entre origine et création ? L'origine est synonyme de commencement, de points de l'espace ou de moments du temps, d'où part une mesure, où la variable considérée a pour valeur zéro. Le terme d'origine peut avoir deux sens, l'un absolu, l'autre relatif. Au sens absolu, l'origine renvoie au point de départ de tout, au commencement radical, au moment T0, si l'on emploie un langage physique. Au sens relatif, elle désigne tout ce qui explique l'apparition de phénomènes nouveaux. C'est au sens absolu, principiel, que l'origine est proche de l'idée de création. D'ailleurs, le terme hébreu bara, au début de la Genèse et dans le Deutéro-Isaïe, désigne la seule action de Dieu qui n'a aucune commune mesure avec le fait de modeler, de façonner, de produire. Aussi, quand ce verbe hébreu a été traduit en grec puis en latin, on a dû y ajouter quelque chose, d'où la notion latine de création ex nihilo. Cette notion se retrouve fréquemment dans les textes latins, et par là, les pères ont voulu montrer la différence avec la philosophie grecque, en particulier avec le démiurge du Timée de Platon, qui façonnait une matière préexistante. En effet, la création implique une action, une parole, une relation que l'on ne trouve pas dans l'origine, qui est un principe abstrait. Cette relation est double, comme l'ont souligné les pères. C'est non seulement la relation entre le créateur et sa création qu'il rend capable de le recevoir, mais c'est aussi, en raison même de cette aptitude, la relation entre l'être créé et son créateur, ainsi que les relations entre les différents êtres créés. La création se dit dans un récit. Or, dans le texte de la Genèse, qui signifie par lui-même « origine », on a bien un récit des origines qui est en quelque sorte une généalogie, en hébreu « toledot », où la création a une place centrale, d'où à la fois l'intérêt et la difficulté de ce texte qui ouvre le plan de Dieu, une histoire. À travers l'imagerie du récit yaviste ou la forme liturgique du récit sacerdotal, le lecteur est amené à comprendre le mystère de l'origine, celui du commencement du monde et de la vie. La forme mythique, qui implique un dépassement de la raison, l'aide à voir que la création, ce don de l'être, est gratuité pure, surabondance de l'amour de Dieu, comme l'ont souligné les pères. À cet acte appartient la séparation, situant l'homme dans la coupure ontologique, mais ne lui permettant pas moins de s'achever par l'actualisation de l'image de Dieu qui est en lui, c'est-à-dire à la fois distance et relation. À l'encontre de la tradition grecque, les pères vont montrer la consistance et la valeur du créé, de la vie humaine dans sa durée, comme la nouveauté qu'elle peut inscrire à la surface de la terre. C'est la bonté de la création qu'il s'attache à mettre en évidence. La création n'est en rien le résultat d'une chute, mais elle est bonne en elle-même. Les pères se sont longuement interrogés sur le sens du texte de la Genèse, ce qui a donné un genre spécifique de commentaire appelé l'hexamérone, commentaire de l'œuvre des six jours, même si certains parmi les pères, tel Augustin, ont pensé que la création s'est réalisée d'un seul coup et que la séparation en jours a été ajoutée après coup de manière pratique. Dans ces six jours, ils en ont privilégié deux, le premier et le dernier. Ils se sont longuement arrêtés au premier mot de la Genèse, Bereshit en hébreu, Enarché en grec, In principio en latin. Les interprétations qu'ils en ont données sont nombreuses, et rares sont les pères qui en sont restés à une seule interprétation. Ils sont généralement passés, à la suite de Philon, du sens temporel à l'identification de l'in principio avec le logos. On le voit très vite chez Irénée, chez les apologistes, Théophile d'Antioche et Justin, puis chez Clément d'Alexandrie. Le principe en qui et par qui tout a été créé est le Verbe. En d'autres termes, la création est l'œuvre de la Trinité. Les pères ne s'intéressent pas tant au commencement, à l'origine, qu'à l'acte créateur lui-même. D'ailleurs, la lettre bête qui ouvre le récit de la Genèse est elle-même une énigme. On attendrait Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, là où il y a une place qui reste vide, ce qui amène une interrogation qui nous amène à passer de l'origine à la création, comme l'ont souligné les commentateurs juifs. Parmi les pères, Origène donne toute sa mesure à la réflexion sur la création au IIIe siècle. Lui qui a écrit un traité des principes, qui savait quelle est l'importance des principes en philosophie, s'est efforcé de passer des principes philosophiques aux principes théologiques. Il ne s'est pas contenté de dire, comme ses prédécesseurs, dans sa première homélie sur la Genèse, que l'arché est à comprendre non au sens temporel, mais comme la création qui est tout entière contenue dans le Verbe, mais il a également proposé une magistrale synthèse sur les différents sens de l'énarché dans son commentaire sur l'Évangile de Jean. Ainsi a-t-il distingué 6 significations de l'énarché. Je les énumère: le commencement d'un passage, celui d'une création, le principe lui-même qui correspond à l'ex nihilo, le modèle, le principe d'une science et celui d'une action. Une fois qu'il a répertorié ces différents sens, il a recherché quel est celui qui s'applique au premier verset de la Genèse, ce qui l'a amené à écarter le premier sens et à dire qu'il est possible que ce soit ce par quoi, c'est-à-dire ce qui crée. Le Christ, dit-il, est d'une certaine manière démiurge. C'est comme principe que le Christ est démiurge en tant qu'il est sagesse, et c'est parce qu'il est sagesse qu'il est appelé principe. La vie fut faite dans le Verbe, mais le Verbe ne diffère pas du Christ, le Verbe Dieu qui est auprès du Père et par qui toutes choses ont été créées, et la vie ne diffère pas du Fils de Dieu. L'énarché est donc à comprendre pour Origène comme étant dans le Christ, dans la sagesse, et cela lui permet de réaliser l'unité de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Puis il conclut en précisant: nous avons appris en qui était le Verbe, il était dans le principe, puis auprès de qui il était, auprès de Dieu, enfin qui il était, Dieu. Dans ses homélies sur l'Hexaméron, Basile, un siècle plus tard, lui qui connaissait les écrits d'Origène, développe pour une part une réflexion sur l'énarché. Il voit 4 sens du terme arché: le commencement, le fondement, le principe, l'heureuse fin, ce qui l'amène à interpréter l'énarché en termes cette fois de création simultanée. Mais celui qui va le plus loin dans le domaine, c'est Augustin. S'il identifie tout d'abord à la suite de Philon et d'Origène l'in principio avec le logos, c'est pour répondre à l'objection des manichéens: que faisait Dieu avant de créer le ciel et la terre? Et pour montrer que cette objection est dépourvue de sens, étant donné qu'il n'y a pas d'avant la création, le temps est lui-même créé, il débute avec la création. Ensuite, Augustin va plus loin dans l'approfondissement et développe une ontologie théologale dans les Confessions et dans le De Genesi ad Literam, sans oublier sa célèbre réflexion sur le temps au livre 11 des Confessions. Il y recherche le sens véritable d'in principio dans ses 5 commentaires sur la Genèse, pour en venir à l'expression la plus élaborée dans son grand commentaire, le De Genesi ad Literam, où il demande si c'est au principe du temps, ou en premier lieu parmi les créatures, ou dans le principe qui est le Verbe de Dieu, son Fils unique, qu'il faut comprendre l'in principio. Cette distinction entre le principe et le verbe renvoie au double moment de la création ou encore au rapport entre création et création nouvelle. Mais elle correspond également à la distinction entre l'économie et la théologie. Sur le plan de l'économie, de la manifestation, on se situe du côté du devenir de la création, du tohu-bohu, qui appelle une formation. Sur le plan de la théologie, de la vie de Dieu en lui-même, le Verbe qui est l'un de la Trinité est le paradigme de la création nouvelle. D'autre part, le Christ n'est pas principe au même titre que le Père, car il est engendré. Mais il est principe en tant qu'avec l'Esprit, il est Verbe co-créateur de tout ce qui existe, en tant que forma omnium, forme de tout, il récapitule en lui tout ce qu'il a été créé. En commentant Genèse 1:26, les pères soulignent que l'être humain est le sommet de la création et ils développent à partir de là leur anthropologie. S'il est un verset de l'Écriture qu'ils ont commenté, c'est bien Genèse 1:26, car il leur permet de rendre compte de l'origine de l'homme. D'ailleurs, certains de leurs commentaires, tels celui de Grégoire de Nyssa, portent ce titre sur l'origine de l'homme. Ainsi, montre-t-il que l'origine de l'être humain, loin d'être le résultat d'une chute, est bonne. Elle est l'œuvre de la Trinité qui a délibéré, avant de le créer, le célèbre faciamus du récit biblique. Et par sa création, l'être humain est en relation avec son Créateur et avec toute la Trinité. Si les pères apostoliques et les apologistes expriment une sorte de foi spontanée en la création, qui devient le premier article du credo, s'ils expliquent que l'être humain est capax dei, en revanche, à partir d'Irénée, une réflexion plus élaborée sur l'origine de l'être humain va se mettre en place à partir d'une réinterprétation de la philosophie grecque. À la différence des gnostiques, qui interprète l'origine de l'être humain en termes de combat des principes et de chute dans la matière, Irénée met en évidence la positivité et la gratuité de cette création. On connaît sa célèbre phrase « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, l'homme qui réalise toutes ses potentialités. » Mais on reprend rarement la suite de cette phrase qui manifeste la relation entre l'être humain et son Créateur. La vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Si déjà la révélation de Dieu par la création procure la vie à tous les êtres qui vivent sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe procure-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu ? C'est une seule et même dynamique qui fait passer l'être humain de la création à la création nouvelle ou encore de la création à l'adoption filiale qui est déjà inscrite au cœur de la création par l'image de Dieu qui est dans l'être humain. Il ressort en fait que la réflexion d'Irénée sur la création est l'une des clés de lecture de l'Adversus Hereses. Cette réflexion est originale. Elle ne relève pas plus d'une réfutation point par point des gnostiques que d'un hexaméron. Elle a pour but de réfuter la cosmogonie des gnostiques sur un autre terrain, celui de l'anthropologie, qui n'est pas sans annoncer celle de Grégoire de Nyssa. On peut y distinguer une triple articulation. Irénée y affirme l'identité du Dieu Père et du Dieu Créateur, ainsi que la transcendance du Créateur, afin d'éviter la dualité des principes et toute subordination dans la Trinité. C'est par ces deux mains, dit-il, que sont le Fils et l'Esprit Saint, que le Père a créé l'être humain. À partir de là, il va développer toute son interprétation anthropologique de la création et préciser le lien entre création et salut. Cette interprétation anthropologique qu'il réalise au prisme de Genèse 1:26 est centrale. Elle manifeste à la fois l'origine et le but de l'homme, qui n'est autre que la divinisation. Créé par la Trinité, il est appelé à être introduit dans la vie trinitaire. Mais ce n'est que par l'incarnation, ou encore par le rapport entre Genèse 1:26, où il est dit que l'être humain est créé à l'image de Dieu, et Colossiens 1:15, qui dit que seul le Fils est l'image véritable du Père, que la création de l'être humain à l'image de Dieu prend tout son sens. De manière fort habile, Irénée réinterprète la conception gnostique de l'homme parfait pour en faire celui qui est véritablement pneumatikos, rempli de l'esprit, et qui fait un bon usage de sa liberté. En mettant l'accent sur la liberté, Irénée est fait figure de précurseur. En même temps, il dégage les implications de la création à l'image de Dieu. Certains situent l'image dans l'esprit, Irénée la voit dans l'homme tout entier et dans sa liberté. Dans ses deux homélies sur l'origine de l'homme, ainsi que dans son traité sur la création de l'homme, Grégoire de Nyssa rappelle que la supériorité de l'être humain vient de son âme et surtout de sa liberté. Par sa réflexion sur l'image de Dieu, qui est l'axe de son traité sur la création de l'homme, il dégage l'originalité de l'anthropologie chrétienne. Il montre que la grandeur de l'homme ne vient pas de ce qu'il est le microcosme de l'univers, le résumé de toute la création, comme tendait à le dire la philosophie grecque, mais du fait qu'il est l'image de Dieu, son interlocuteur, ce qui l'amène à rechercher le sens de cette image en l'homme. On se demandera, en effet, dit-il, comment il peut exister une ressemblance entre un être corporel et l'être incorporel, entre un être soumis au temps et l'être éternel, entre un être soumis à l'altération et au changement et l'être qui échappe au changement, entre un être soumis aux passions et à la mort et l'être éternel que rien n'affecte. Il y a une grande différence entre le modèle et la créature faite à son image. Si l'image a bien une ressemblance avec le modèle, elle mérite réellement son nom. Mais si elle s'écarte du modèle, qu'elle devait imiter, c'est autre chose. La différence ontologique est radicale entre le créateur et l'être créé. Mais un choix est proposé et en fonction de ce choix, l'être humain s'accomplit ou se détruit. C'est une même dialectique de la liberté que l'on retrouve chez Grégoire de Nyssa et chez Origène, et même plus largement chez Irénée, si on reprend les développements d'Irénée. Il explique justement que c'est la liberté qui nous fait échapper à la contrainte et développe à partir de là sa réflexion sur l'épectase, sur le progrès continuel qui fait l'originalité de son œuvre. Cette dialectique de la liberté, on la retrouve en d'autres termes chez Augustin, à la fois dans une autre dialectique, celle de l'aversio ad Deo et de la conversio ad Deum, ainsi que dans le schème creatio, conversio, formatio. À la différence des autres pères, Augustin n'est pas parti d'une réflexion sur l'image de Dieu en l'homme. Cela a été davantage pour lui une découverte, comme il le dit dans les Confessions. En effet, ayant adhéré au manichéisme 9 années durant, il refusait la notion d'image de Dieu comme relevant de l'anthropomorphisme. C'est Ambroise de Milan qui lui a fait comprendre, au contraire, la dimension spirituelle de l'image de Dieu en l'homme. Ensuite, il a recherché le sens et le lieu de cette image avant d'envisager sa dimension trinitaire et son accomplissement, tant dans ses cinq commentaires de la Genèse que dans le De Diversis Questionibus et dans le De Trinitate. C'est en termes de réalité dynamique qu'il envisage l'image de Dieu. Il ne s'arrête pas à la distinction entre image et ressemblance, mais il explique que l'image tend vers son accomplissement, qu'elle peut devenir dissemblante si elle refuse la vie que lui propose son Créateur, ou qu'au contraire, elle s'accomplit en la recevant. C'est là tout un jeu autour du terme « forma » qu'Augustin met en place et qui trouve son expression achevée dans le De Trinitate, où il montre comment la forma dans laquelle l'être humain est créé à l'image de Dieu peut devenir deformis forma, forme dissemblante par l'aversio a Deo, ou forma formosa, forme belle, par la conversio ad Deum. Il y a un don premier qui est l'origine même de l'être humain dans la création, c'est celui de l'être, traduit par la forma chez Augustin. Or, Augustin va plus loin que les autres pères, car il définit cette forma première reçue à la création en termes d'essai ad, d'être orienté vers, comme en témoigne la célèbre phrase des Confessions, « Tu nous as fait orienter vers toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi ». C'est donc en termes de relation qu'Augustin définit l'être créé. C'est là l'écho même de son expérience d'être créé, de dépendance dans l'être qu'il a connu, alors qu'il essayait de vivre l'extase plotinienne. En une sorte d'éclair, Augustin perçoit à la fois la nature du Créateur et la relation constitutive qui relie les êtres à leur Créateur et qui leur donne ainsi d'exister. Dans le même temps, il perçoit la différence entre sa nature et celle de son Créateur, ce qui lui fait dire « J'ai découvert que j'étais loin de toi dans la région de la dissemblance ». Cette célèbre Regio dissimilitudinis qu'il reprend des ouvrages de Platon. Mais cette différence ontologique n'est pas insurmontable. Il dit qu'il entend une voix lui dire des hauteurs, « Je suis l'aliment des grands, grandis et tu me mangeras, et tu ne me changeras pas en toi comme l'aliment de ta chair, mais c'est toi qui seras changé en moi. » Sans doute y a-t-il là une référence implicite à l'Eucharistie qui vient d'une relecture a posteriori de l'épisode, mais il n'en demeure pas moins que par la médiation du Christ, l'être humain peut être pleinement introduit à la vie de la Trinité, dont il porte l'image en lui. Par sa conversion et par la médiation du Christ, il passe de sa forma première à sa forme accomplie, à sa formatio, dit Augustin, d'où ce schème de la création, de la conversion et de la formation. C'est en effet une remarquable synthèse sur la création que réalise Augustin, d'autant qu'il déploie toute une anthropologie où l'être créé se constitue par sa conversion en coopérant au don de la vie que lui propose son Créateur. Augustin l'a compris, si on s'attache cette fois au vocabulaire comme tel, dans un jardin, le jardin de Milan, c'est-à-dire dans un hortus en latin avec un H, où il a retrouvé son hortus sans H, son origine. Donc là, son origine d'être créé en relation avec son Créateur, et cet être créé qui tend vers sa plénitude, ce qu'Augustin appelle sa formatio, son accomplissement, c'est-à-dire en consentant ici au projet créateur. Par la création, c'est une même dynamique qui pose l'origine et qui en propose la réalisation à la liberté de l'être créé. L'on voit que sans disposer des acquis de la science, les pères ont rendu compte de l'origine de la vie et de l'univers à partir de la création, surtout du don de l'être par la parole. Sans doute, leur réflexion est-elle à compléter sur tel ou tel point. Elle est encore parlante aujourd'hui sur d'autres. Ils ont mis en relation l'origine et le terme, la création et le salut. Leur perspective est radicalement positive. S'ils partent d'une énigme, celle de l'origine, le cosmos, pour reprendre les mots de Guéché, s'il reste ainsi substantiellement ce qu'il est, il le doit à la matière dont Dieu l'a créé. Dieu a tout fait par son verbe, par son logos. Le cosmos n'y échappe pas. Il est, comme toute la création, traversé et transi par le logos du Créateur. Il est, pourrait-on dire, un cosmos logikos. On aurait presque même envie de dire que le cosmos est privilégié dans cette création, signée par ce fastueux perquem in principio enarché, dans un principe, selon un principe, comme aimaient le dire les pères. Ne voulant pas voir ici la simple affirmation d'un début, arché, compris comme simple initium. Le cosmos est créé au commencement, bien sûr, mais aussi selon une rationalité, selon un sens, avec une idée, une structure. Il est créé avec des capacités, en état de capacité. Il a par lui-même et pour lui-même, dès avant l'homme, et donc, indépendamment de lui, une finalité, un sens. Le cosmos n'apparaît pas comme un chaos, au contraire, son nom de cosmos l'indique. Il est créé avec ordre et intelligence, bien planté et construit. La Sophia divine a présidé à ses commencements et lui a donné finitude et ordonnancement. La sagesse de Dieu se trouve d'ailleurs aussi bien chez elle sur terre qu'au pied de Dieu. Ce cosmos est fondé, déployé avec intelligence. Il n'est pas simple socle en attente de ce qui seul lui donnerait sens. Y a-t-il donc un secret de salut dans le cosmos ? Il semble bien que lui, et de manière très déterminée, le salut vient évidemment de Dieu, mais ce salut, on le sait, Dieu l'a confié à l'homme, dont il n'a pas voulu distraire la liberté. Les pères l'ont compris et en ont fait le centre de leur anthropologie.
Si je peux me permettre de rebondir sur votre dernier terme, vous avez prononcé le mot que j'attendais pratiquement depuis le début, c'est-à-dire celui de la sagesse. Et par rapport à l'origine, je vais être obligé de développer un tout petit peu. Je veux dire que nous avons là quand même, on le sait, l'un des grands thèmes de la crise arienne. Hein, puisque par Proverbe 8, on sait très bien qu'à l'époque, c'était la sagesse. Je fus créé dans l'éternité, etc. Et dans l'attraction qu'il y a eu de toute la littérature sapientielle vers le Logos, on sait très bien que l'un des arguments des Ariens étant le Logos étant la sagesse a été créée, donc le Logos a été créé. Donc le Christ a été créé. Bon, on sait très bien comment c'est résolu la chose. Justement, dans cette sorte de division que l'on a eue par rapport à la création, évidemment, c'était les textes tels qu'ils étaient connus à l'époque, puisque mes amis hébraïsants disent dans le texte réel, c'est en réalité dans la présence de Dieu, j'étais à Dieu, et non pas je fus créé. Enfin, à l'époque, effectivement, c'était le texte dont on disposait. Et on voit très bien comment, précisément, par rapport à cette pré-éternité, si on peut dire, qui est ainsi posée, je rejoins ce que je disais hier, parce que je faisais allusion à Scott Erigène et aux dédivisionnés naturels, de voir comment le in principio, justement, Scott Erigène va le diviser, en faisant la différence entre le in principio de la Genèse et le in principio de l'évangile de Jean. Et comment, alors même que lui-même pose et reprend le thème de la création ex nihilo, ce ex nihilo va devenir ce que dans la tradition on appelle le néant suressentiel. C'est-à-dire que ce ex nihilo n'est pas un nihil absolu. et ne peut pas être un nihil absolu. Il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'incréé, que nous ne pouvons pas désigner, que nous ne pouvons pas circonscrire. Comme on le dit hier, on est sur le bord d'un abîme, en quelque sorte, qu'on ne peut... Et alors, ce qui m'intéresse là, c'est que ce qu'introduit Scott Ejen, d'une certaine manière, enfin, son fameux Natura Sive Deus, hein, qui n'est pas du tout le Natura Sive Deus de Spinoza, qui est quand même Natura pris au sens fort, ce que nous oublions lorsque nous parlons de nature, lorsque nous parlons de créature, et ce que j'ai bien entendu, c'est que vous ne vous êtes jamais servi du mot de créature, c'est que ce sont des participes futurs. C'est-à-dire que la nature est ce qui est toujours en instance de naître et que la créature est toujours ce qui est en instance d'être créé. C'est-à-dire on est dans l'ordre de l'ouvert, comme si l'origine, je dirais, était toujours présente, en fin de compte. On parlait hier, de, si je me rappelle bien, c'est Baudouin qui parlait de création continuée, comme s'il y avait effectivement dans cette origine sans arrêt présente la continuation indéfinie de la création. La création, c'est pas un acte qui a lieu un jour et puis voilà, il y a un commencement absolu, mais au contraire, c'est une origine toujours active, toujours en surabondance, toujours en mouvement, qui fait que le commencement, c'est... Enfin, je reprends la fameuse parole de Saint-Joueur de Nice, vous savez bien, j'allais de commencement en commencement par des commencements sans fin. C'est-à-dire que le commencement n'a jamais fini d'être commencement, il est toujours recommencé. Oui. Et là, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui permet de... On est évidemment dans toute la tradition que vous avez indiquée, mais qui permet de dépasser cette tradition, parce qu'il me semble qu'il y a quand même parfois des petites contradictions internes qui n'ont pas toujours été véritablement réglées.
Non mais tout à fait, la création continuée est fondamentale, et si j'ai plus axé sur la liberté, c'était pour voir un peu comment cette création continuée existe du côté humain, et sinon on a une création continuée qui est très nette chez les pères. La distinction entre Genèse et Jean, on la trouve déjà chez Origène, parce qu'entre ses homélies sur la Genèse et son commentaire de Jean, et simplement, le commentaire de Jean lui permet d'approfondir les choses. Et chez Augustin, on a aussi tout le rapport entre Genèse et Jean.
Non, mais j'insiste dessus, parce qu'on voit très bien comment dans notre tradition culturelle, je dirais, les deux principes sont confondus l'un avec l'autre, et cette distinction qui avait été très intéressante, je pense, qui avait été introduite, a été complètement perdue de vue, d'une certaine manière. Et ce qui permet de donner, justement, et c'est ça qui m'intéresse chez Scott Ejen, au ex nihilo, un autre sens que celui que nous avons fini par lui donner. C'est-à-dire, c'est pas la création à partir de rien absolu. Alors évidemment, penser le néant comme étant absolument néant sans être néant, ça pose quelques problèmes.
C'est-à-dire que Scott Ejen est peut-être davantage du côté d'une perspective dynamique sur la création, comme Grégoire de Nice, d'ailleurs dont il était le traducteur. Hein. En revanche, pour d'autres, c'est une réflexion en lien avec la philosophie grecque et qu'en est-il de la matière ? Est-ce qu'il y a une matière préexistante ? Est-ce qu'il n'y a pas de matière préexistante ? D'où le ex nihilo.
Je donne la parole à
Jean-Pierre. À partir du texte que vous avez distribué de Genesis ad Literam, donc on retrouve un argument... un argument qui est un argument de Plotin, hein, qui est, enfin, une distinction de Plotin entre l'antériorité au sens principier et l'originaire et l'antériorité au sens chronologique. Donc, et ici, c'est adapté au cas de la matière et de la forme. Il n'y a pas une matière, il n'y a pas une matière qui serait temporellement antérieure ou chronologiquement antérieure à l'acte créateur. Dit Augustin, dans le récit, les deux sont confondus. Alors c'est intéressant parce qu'il dit l'écriture a pu séparer dans les moments du récit ce que Dieu n'a pas séparé dans le moment de l'acte créateur. Donc il y a toujours un moment de l'acte créateur, et donc on a l'impression qu'il y a une sorte de tour de passe-passe là, parce que Augustin n'échappe pas à l'objection qui est celle de Plotin, pourquoi tel moment plutôt que tel autre, et même si on dit que le temps a été créé en même temps que l'univers, ben, comment est-ce qu'on peut penser l'apparition du temps à un moment où il n'y a pas de temps, et donc on se demande si Augustin n'est pas un peu prisonnier là, enfin, un peu coincé entre deux logiques qui s'opposent, et s'il n'y a pas quelque chose qui l'empêche de penser une genèse éternelle ou une création permanente ou quelque chose qui serait plus proche de Plotin.
Je crois que Augustin n'est pas arrivé à une présentation définitive, mais que au contraire, il est revenu déjà par 5 fois sur son commentaire sur la Genèse. Il a essayé, comme il le dit au début du livre 11, de comprendre ce texte, livre 11 des Confessions, de comprendre ce texte. En même temps, il était marqué par Plotin, et il y a des moments où son interprétation est plus une question qu'une véritable réponse définitive. C'est plus une interprétation en devenir qu'il propose en revenant sur différents points. Et là, de manière nette, il est marqué par Plotin.
Certes. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression qu'il est coincé, qu'il y a quelque chose qu'il voudrait penser, mais il ne peut pas parce qu'il y a quand même la lettre à respecter. Et il y a quelque chose que peut-être Scott Erigène, après, pourra plus se permettre de penser.
Ah ben là, c'est possible.
Enfin, c'est une question que je...
Je voudrais poser à la fois une question naïve et une observation globale qui se dessine petit à petit en moi. C'est que après l'exposé si éclairant de Monsieur Ouénin et puis le vôtre, en parallèle à ce qui a été dit hier, j'ai l'impression que, enfin moi j'observe entre la pensée hébraïque, la Genèse, etc., et puis la pensée des pères de l'Église, on n'est plus dans la même atmosphère concernant la question de l'origine. Je répète ce que vous avez dit tout à l'heure en privé, l'importance que vous avez donnée à la notion de séparation, la mise en évidence que vous en avez faite, pour moi, est vraiment révélatrice. La séparation, dans ce que dit Madame Vanier, n'apparaît plus. Au contraire, on voit des tentatives des différents pères de coordonner l'existence de l'homme, quelle que soit la question de la séparation posée au départ, de la coordonner avec une bonté du Créateur et une destination de l'homme, pour reprendre le titre du Gift de Fils, hein, une destination de l'homme qui l'ouvre à retrouver l'image formosa, comme vous avez dit, forma formosa, la belle image, et non pas celle qui déformerait si on n'allait pas, si on se laissait le puits comblé, comme vous l'avez souligné. Alors, ce que je perçois, mais c'est une hypothèse que je soumets à la réflexion, si vous voulez bien l'accepter, c'est que nous aurions, et alors avant de dire ça, oui, et il va se passer là demain avec vous Monsieur de Charneux, il va se passer quelque chose de l'ordre aussi d'une origine qui va être plus en continuité, vraisemblablement, donc entre un créateur ou un processus créateur et l'homme, n'est-ce pas? Et nous avons comme 3 étapes, l'étape relativement très belle, très impressionnante, mais assez terrible de l'origine telle que vous l'avez évoquée par la Genèse, l'étape rassurante, essayant de recoller nos morceaux dans une unité allant vers le Formosa et notre réalisation, ce qui entre parenthèses va nécessiter quand même le Fils envoyé qui va mourir, alors je vais y revenir tout de suite, et puis ensuite l'union mystique, hein, que ce soit celle que l'on retrouve dans le Phèdre, hein, ou bien dans Plotin, l'union mystique, c'est-à-dire être le lieu du souffle originel, quelque part, quelle qu'en soit la construction théorique qu'on puisse en faire, hein, suivant les auteurs, Denis l'Aéropagite ou chez Plotin, et à partir de laquelle, à partir de cette source en soi, eh bien, on se sent être un soi à partir, donc en bout de course, d'une origine non traumatique. Alors qu'au début, l'origine est d'une certaine manière traumatique. Alors, ce qui m'est venu à l'idée, c'est cette espèce tout d'un coup de distinction dans la théorisation et dans le fil de l'histoire entre les théories de l'origine traumatique, et ensuite, pas l'édulcoration, mais disons une espèce de mouvement de sensibilité à notre condition et en espérant que le Dieu puisse y participer, hein, une origine moins traumatique ou alors sauvée. Et chez les mystiques, entre guillemets, Maître Eckhart, Plotin, comme j'ai dit, etc., une origine mystérieuse, mais à laquelle on participe, et il n'y a pas, à mon sens, mais c'est à critiquer, en particulier vous qui êtes spécialiste de Maître Eckhart, cette notion de non-traumatisme de l'origine, au contraire de quelque chose absolument splendide. Je l'ai noté ce matin, mais sans le faire exprès, parce que je lisais en attendant, cette phrase de, j'aurais terminé, cette phrase de Maître Eckhart, plus les puissances de l'âme sont transparentes et nues, plus elles reçoivent parfaitement et abondamment ce qu'elles accueillent, plus elles reçoivent, plus leur joie est grande, etc., etc. Et il continue en disant si l'âme est dépouillée de toute chose et n'a rien de commun avec quoi que ce soit, elle n'accueille rien de moins que Dieu lui-même dans l'immensité et la plénitude de l'être, c'est dans la divine consolation. Alors moi je sais pas, je vois une espèce de sur la pensée de l'origine, une espèce d'évolution, on part d'une origine traumatique et on travaille à ce qu'elle soit moins traumatique, on essaie de trouver les bases non traumatiques. Et j'ai terminé en disant que hier quand je disais finalement les psychanalyses, les différentes théories psychanalytiques ont besoin de tuer pour créer l'origine, c'est-à-dire pour créer le moi, n'est-ce pas? Moi, je dis là, on voit une évolution, enfin, je propose, on voit une évolution vers, au début était le traumatisme, et ce traumatisme a bien marché quelque part, parce que si on peut s'attribuer la foi et la confiance dans cette question du traumatisme, le moi va participer à l'ordre de la création, mais aussi on peut atténuer le traumatisme, imaginer l'accord de base et le sens de la source, n'est-ce pas, dont on est en fond le récepteur, en espèce d'être unaire, et à ce moment-là, la consolation divine, hein, dit Maître Eckhart, et à ce moment-là, on n'a pas besoin du moi, au contraire, le moi devient extrêmement dangereux, et on aboutit à quelque chose de l'ordre du soi, ouvert, récepteur, prolongeant la création, et pour en finir, et interpeller indirectement M. Cazenave, est-ce qu'on ne retrouve pas ça dans l'opposition freudien, jungien, etc., si vous voulez, non, vous ne le pensez pas. En tout cas, moi j'envisage un peu les choses comme ça et je m'arrête.
Oui, de fait, il y a une différence très grande de contexte culturel, mais je reprendrai peut-être la distinction politique, parce que il me semble que dans la Genèse, il y a vraiment ce contexte politique, en particulier pour le terme bara. Et chez les Pères, ce serait presque davantage le sujet, qu'en est-il du sujet comme tel, du sujet créé, de sa relation, comment le comprendre, bon, pour schématiser quand même très largement les choses. Et on passe vraiment d'un contexte culturel à un autre. Pour Eckhart, là, il faudrait presque reprendre comme tel, parce que on a son commentaire de la Genèse qui est très ontologique. Pour lui, la création, c'est la collation ici, c'est le rassemblement de l'être. Il y a aussi les paraboles de la Genèse où cette fois ça va être plus allégorique, et d'autres textes où il voit une sorte d'origine paradisiaque, et même dans le sermon 52 où il dit « Lorsque j'étais dans mon origine, j'étais en plénitude, et ensuite, bon, le traumatisme... »
Traumatique, là.
Voilà. Non, pas du tout, mais le traumatisme, c'est la création.
Donc là, il y a une espèce de base dialectique entre origine traumatique et origine non traumatique, et un champ d'exploration qui est un peu l'objet de ce colloque, finalement.
Tout à fait.
Je vous donne la parole tout de suite, puisque vous m'interpellez, donc il faut bien que je réponde. C'est que ce que je vois, c'est que dans les traditions, je dirais, néo-plotiniennes, je pense, parce qu'on parlait tout à l'heure du Zohar, par exemple du Zohar, le traumatisme est encore plus énorme, puisque lui, que ce soit le traumatisme de l'humain, c'est le traumatisme du divin. Le traumatisme, il est rapporté en Dieu même. Hein, et la blessure qu'il s'inflige, et la rupture qu'il s'inflige en lui-même. Donc, je veux dire, là, on arrive quasiment à l'absolu du traumatisme. Parce que je crois qu'il y a quand même une réalité humaine qui est que de quelque école qu'on soit, de quelque tradition et quelque dispositif que l'on mette en place, nous sommes devant ce problème de la solution de continuité. Et alors on la pense d'une manière différente, on y répond d'une manière différente, c'est là-dessus. Et là-dessus, alors précisément, je pense que la différence entre freudien et jungien n'est pas du tout ça. Parce que le soi, on sait que Jung le reprend dans les Upanishads, mais le soi existe dans l'homme en tant que précisément le soi ne fait plus partie du soi absolu et donc du Brahman. Il s'agit de le ramener au Brahman, ce qui veut dire qu'il y a une blessure ontologique. Et je crois que ce terme, cette idée de la blessure ontologique, du traumatisme ontologique, on peut l'appeler de toutes les manières qu'on veut, on n'y échappe pas. Il y a simplement des différentes manières de le penser. Mais là, je crois qu'il y a quelque chose sur quoi, je disais hier que Jung, c'était pas de la psychanalyse, je suis profondément d'accord, même si je le dis autrement, avec les psychanalystes. Et avec la psychanalyse.
Moi, du fond de mon ignorance, je me demandais si ces convergences qu'il y avait entre la lecture que vous avez faite de la notion de séparation, de parole, etc., et les échos que ça évoque dans un discours psychanalytique, où je pense qu'il y a certains psychanalystes qui font qui vont presque jusqu'à faire de la théologie. Il y a des parallèles qui me paraissent tout de même assez frappants. Mais je pense que est-ce que c'est un effet d'époque. Vous avez fait une lecture de votre époque. Donc est-ce que cette lecture très très séparatrice, très sur le rôle de la parole, de cette nécessité d'un interdit, etc. Donc ce sont des choses qui pour moi éveillent des échos. À mon avis, ce sont des lectures de notre temps qui n'ont peut-être pas été aussi radicales. On aurait pu probablement faire une lecture de la Bible plus consensuel, plus dans une sorte de aussi peut-être de continuité, etc. sous d'autres temps. Donc voilà, c'est la question que je pose.
Je pense que c'est une lecture de notre époque. D'ailleurs, j'ai parlé d'une interprétation qui est marquée évidemment par une culture qui la porte et qui dialogue avec le texte. Mais quand même, je voudrais quand même situer brièvement la manière dont j'en suis venu à m'intéresser à la psychanalyse. C'est parce que, en lisant les textes avec une perspective essentiellement littéraire au sens riche du terme, j'en suis arrivé à des choses, et on me disait, mais ce sont des psychanalystes qui disent ça. J'ai commencé à lire des psychanalystes. Donc, d'une certaine manière, c'est peut-être dans l'air du temps, évidemment, mais je veux simplement situer cette manière de lire les choses qui est certainement marquée par une culture, mais qui cherche quand même à maintenir une altérité du texte, au point que sur un certain nombre de points, j'imagine, je m'opposerais à la psychanalyse au nom du texte. Et donc, je pense que les pères de l'Église, au fond, si vous voulez, je crois que les pères de l'Église, je crois que vous l'avez bien montré, bien, c'est en dialogue avec la question de la culture, en dialogue avec les gens qui écrivent à l'époque ou qui ont écrit et qui marquent la culture encore, c'est forcément en dialogue avec cela qu'une interprétation se produit. Et moi, je suis dans le même cas de figure, à savoir produire une interprétation qui permet de montrer en quoi le texte biblique permet de penser l'être humain dans la culture qui est la nôtre.
D'un mot, si vous permettez, pour terminer. Mais les époques marchent. Donc, quand vous dites influence de l'époque, aussi, ça se retrouve comme ça aussi. Il y a une marche. Il y a une marche de découverte de l'origine et qui semble marquée par l'évolution, peut-être, du concept de la manière dont on envisage le traumatisme, jusque dans l'excès terrible, si le traumatisme atteint le Dieu lui-même, comme l'a souligné M. Kasdan. C'est une question ouverte.
La question qui ramène à la première, en fait, à Mme Vanier, c'est de savoir, selon vous, est-ce qu'on peut dire que les pères de l'Église interprètent Genèse 1? Est-ce qu'ils n'interprètent pas plutôt une sorte de complexe de textes qui comprend Genèse 1 et Jean 1, évidemment, mais aussi les hymnes christologiques du Nouveau Testament, les passages sur la sagesse? Donc, Nous avons cette idée qu'un texte mérite une attention pour lui-même, même si on ne comprend bien le texte lorsqu'on le remet dans son intertexte un peu large. Pour les pères de l'Église, je pense que c'est l'inverse. C'est qu'on est devant, ils ont un tas de textes dans la tête qui se comprennent les uns par les autres. Qu'est-ce que vous
Oui, tout à fait. On a une interprétation feuilletée, si on veut, avec les différents textes qui interviennent. Alors, peut-être moins chez quelqu'un comme Basile, qui essaye de voir le texte lui-même, mais chez Augustin, quand il essaye de donner une interprétation littérale, mais à chaque fois, il fait le lien avec tout un ensemble d'autres textes, et en plus des chaînes. Je pense qu'il disposait de chaînes scripturaires, et que tel verset était rapporté à tel autre, et immédiatement, ils éclairent avec d'autres versets.
Et peut-être des adversaires aussi.
Oui, oui, oui.
Parce qu'il s'agit de lutter contre
Oui, chez René, par exemple.
Justin, il s'agit de lutter contre les manichéens, de manière à montrer qu'on n'est plus manichéen, alors qu'on le reste un peu au fond.
Ça a quelque chose de nouveau de ce point de vue-là, c'est-à-dire des interprétations où on sait que ça, on ne veut pas. Ça, c'est l'interprétation du collègue, et on en diverge. Il y a quelque chose de social, je trouve, de très peuplé dans ces interprétations, peuplé d'enjeux.
C'était Éloge du savoir, le 5e colloque de Bruxelles sur le thème Questions d'origine, avec aujourd'hui Marie-Anne Vanier, équipe de réalisation Annick Brien, Michel Cazenave, Isabelle Huel, Christine Goémé.